On accueille deux membres du collectif Manifeste Rien, Jérémy Béchon et Olivier Boudran. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Jérémy Béchon.
Metteur en scène au sein du collectif Manifeste Rien, comme il a été dit. Voilà, pour le côté succès.
Et moi, c'est Olivier Boudran, comédien et membre du collectif Manifeste Rien également.
Avec le collectif Manifeste Rien, vous avez un large catalogue de spectacles. Est-ce qu'il existe un fil rouge qui lie tous ces spectacles ?
Ben, le fil rouge, c'est que ce sont très souvent des adaptations d'œuvres de sciences sociales, d'anthropologie, d'histoire, de sociologie, pour rendre accessibles les outils de l'analyse critique au plus grand nombre. C'est le fil qu'on a tissé depuis une dizaine d'années. Il y a aussi une autre partie qui est le théâtre d'ombre, théâtre pour enfants, qui est mené par Leslie Logéro et Cyril Laurent dans notre collectif. Mais pour la branche que je mène avec Olivier Boudran et Virginie Aymon, ce sont ces adaptations dont je parlais, qui sont des formes tout publiques de spectacles, souvent des solos d'une heure, qui scénarisent, qui interprètent les concepts, les analyses qu'ont trouvé les chercheurs sur notre monde pour aborder la réalité de manière plus critique, dans une forme spectaculaire, dans le sens pas un son et lumière, mais de partage le plus simple et le plus libre possible dans la scène entre l'interprète et les spectateurs et spectatrices.
Et la semaine prochaine, vous présentez deux solos qui mêlent théâtre et sciences sociales sur les impasses, les traversées du désir, sur la déconstruction des normes, sur la puissance salvatrice du rire et de la révolte. À Manosque, à Marseille, Port de Bouc et au Bagne, c'est les spectacles La domination masculine et Homo Sacoins. Homo Sacoins, on en parle un peu plus pendant ce magazine du midi. C'est la semaine prochaine au Théâtre de l'Œuvre, rue Mission de France. C'est le 19 et 20 novembre.
Et 20 novembre
à 20h. On écoute tout de suite un extrait donc, de ce spectacle, Homo Sacoins.
Le mot homosexuel a été inventé en 1869 par un médecin allemand. La psychiatrie a transformé l'intolérance barbare en intolérance civilisée. L'individu n'est plus traité en criminel, mais en malade. Un anormal, mais guérissable. Aujourd'hui encore en Grèce, pays de vos vacances, deux jeunes lesbiennes sont électrochoquées à la demande de leurs parents. En Tchétchénie, deux jeunes gays sont arrêtés, torturés et tués sur ordre de l'État. Aux États-Unis, les églises pratiquent la thérapie de conversion. Et ici même.
C'était un extrait du spectacle Homo Sacoins, mis en scène par Jérémy Béchon ici présent et interprété par Olivier Boudran. Est-ce que vous voulez commenter ce petit extrait ?
Non, juste pour le resituer, c'est un passage où le monsieur Loyal, qui est le narrateur de la pièce, parce que Olivier Boudran interprète une quinzaine de personnages pendant une heure, ce monsieur Loyal nous explique quand le mot homosexuel a été inventé et pose la question de ce qu'il en est aujourd'hui. Et on voit que c'est beaucoup moins évident. Moi, j'ai découvert que ce mot-là a été inventé au 19e siècle, alors qu'évidemment, les rapports entre hommes, entre femmes, entre bisexuels existent depuis la nuit des temps, je pense. Mais la terminologie homosexuelle est très récente et elle est psychiatrique. Et ensuite, aussi par rapport à la tolérance qui est affichée sur l'homosexualité, on voit encore que les électrochocs sévissent en Europe, que les thérapies de conversion sont féroces et qu'en France, il y a toujours ce double discours d'une certaine acceptation d'une homosexualité de l'homme, on dira souvent l'homme blanc valide, mais qu'est-ce qu'il en est de tous les autres ? Des sans-papiers, des non-valides, de ceux qui sont en dehors de ce système-là.
Et donc, Homo Sacoins, ça parle de l'homosexualité, de l'homophobie. Pour amener ces thèmes-là, vous avez fait un gros travail de recherche en amont. Comment ça s'est passé ? Comment vous avez travaillé pour amener ce spectacle ?
Alors, la manière dont nous on travaille dans le collectif, c'est qu'on travaille d'abord de manière collective. Ça naît d'une envie commune d'aborder ces thèmes, ces sujets. Donc, cette fois-ci, la discrimination au genre et aux identités sexuelles. Avec Jérémy, ce qui se passe, c'est qu'on se donne toute une bibliographie. Donc on se met à chercher, fouiller pendant plusieurs mois, chacun de son côté. On va lire de la sociologie, écouter des podcasts, rencontrer des associations, des gens. Au bout de quelques mois, on se retrouve, on met tout ça en commun. On se dit, bah, tiens, lis ça, lis ceci, j'ai sélectionné ci, j'ai sélectionné ça. Et ensuite, on va se mettre au plateau et on va essayer de donner vie, donner corps, en fait, à toutes ces théories. Donc, pour ce faire, on s'appuie sur pas mal de sociologues, hein, que ce soit Sam Bourcier, Gilles Dauvé, Despentes, Laurent Guessade, dont on reviendra tout à l'heure, hein, sur Laurent, Goffman, Oppenheim, Reich, Wittig, etc.
Donc c'est une bibliographie que vous pouvez partager, qui est inspirante, qui vous a permis de vous inspirer et surtout d'avoir les mots justes et d'être précis sur la thématique.
Ça permet de se décentrer, parce que moi par exemple sur le sujet, je pensais savoir, je pensais connaître énormément de choses sur cette thématique-là, pour ça d'ailleurs je me suis lancé dans le spectacle, et comme très souvent dans les spectacles de manifesterie, je me suis aperçu que j'étais assez inculte finalement sur comment poser cette question-là de l'homosexualité, de l'hétérosexualité, de la norme, et qu'est-ce que ça impliquait dans les rapports sociaux et l'équité sociale. Et le paradoxe, c'est qu'en ayant cherché tout ce corpus de textes, de scientifiques, ça permet de reposer des questions qui sont sur soi, parce qu'on traite toujours des sujets qui sont intimes et on part toujours de notre propre intimité. Mais c'est un aller-retour comme ça entre les autres et soi-même pour arriver à partager ces outils pour mieux se comprendre soi-même et du coup mieux comprendre les autres.
Comme pour chaque création du coup du collectif, on s'associe à chaque fois à un sociologue vivant avec lequel on échange tout au long de la création. Là, c'est le cas de Laurent Guessade, socio-anthropologue, qui vient de sortir un livre, Hommes en chasse, on en parlera encore. Et la particularité de nos spectacles, c'est que chacune des représentations est suivie par un échange, à défaut d'un débat, avec notre public, en présence justement du socio-anthropologue Laurent Guessade, de Jérémy Béchon, l'auteur-metteur en scène du spectacle, parfois même de Virginie Aymone, qui est aussi assistante à la mise en scène et qui a été aussi une grosse aide à l'écriture.
Donc, Laurent Guessade, il a assisté à plusieurs étapes de travail.
Oui, il a. La pièce, elle est restée sous ma direction, mais ça a été coécrit avec Olivier Boudran, Virginie Aymone et Laurent Guessade. Et Laurent a partagé ce corpus de textes. Il faut savoir que toute la première partie de la pièce, qui se passe plus à Marseille et dans le quartier de Sébastopol, sont tirées directement de ses recherches sur les lieux de drague masculine nocturne. Et il a corrigé le texte. En fait, à chaque fois qu'il y avait des choses qui étaient trop straight, qui étaient trop hétéronormées ou qui étaient trop bourdeusiennes pour lui, c'est un langage qu'on a commun avec les anthropologues, il me reprenait, il disait non, ça c'est impensif, ou ça va être à côté, ou ça va pas aller assez loin. Et il y avait une correction conceptuelle du texte. Et ensuite, avec Olivier, on reprenait au plateau. Ce qu'on appelle l'écriture plateau, c'est-à-dire que le comédien corrige directement le texte, ce qui ne sort pas en bouche, ce qui n'est pas agréable à dire, ce qui n'est pas logique dans l'oralité. Il réécrit le texte et puis on le représente à Laurent, au socio-anthropologue, qui refait ses retours jusqu'à arriver à la forme la plus parfaite, sachant que je ne pense pas qu'il y ait de perfection possible en art, ou malheureusement sur Terre, mais la forme la plus juste aux quatre qui écrivaient, jusqu'à ce qu'on puisse plus changer un mot par un autre.
Alors avant de continuer et de parler un peu plus de cette pièce, je vous propose d'écouter une musique, une petite pause musicale. C'est Bliss, une chanteuse inspirée par des artistes de soul, de jazz, qui est accompagnée par du hip-hop instrumental créé par ces trois Bliss Boys, comme elle les appelle. Donc elle a sorti un premier EP en mars 2020, et là on écoute Trapped.
Sometimes I forget I got it. I'm not sure no more. Some days I know I got it. Some days I'm sure. Sometimes I forget I got it. I'm not sure no more. I've got that thing I can't explain. It holds me back. I got that thing I can't understand why it keeps me down. I'm trapped in it, I'm trapped in it, I'm trapped in it now. I'm trapped in it, I'm trapped in it, I'm trapped in it now. Some days I know I got it. Some days I'm sure. Sometimes I forget I got it. I'm not sure no more. I beg myself to do my things, but I'm trapped in it. I do know where I could go, but I'm trapped in it now. I feel it so deep in my soul, it holds me back. I mustn't turn away from the goal, but I still let it down. I feel it so deep in my heart, it holds me back. I'm scared I don't wanna fall, but it keeps me down. I'm trapped in it, I'm trapped in it, I'm trapped in it now. I'm trapped in it, I'm trapped in it, I'm trapped in it now. Some days I know I got it. Some days I'm sure. Sometimes I forget I got it. I'm not sure no more. I beg myself to do my things, but I'm trapped in it. I do know where I could go, but I'm trapped in it now. I'm trapped in it, I'm trapped in it, I'm trapped in it now. I'm trapped in it, I'm trapped in it, I'm trapped in it now. I'm trapped in it. I'm trapped in it, I'm trapped in it, trapped in it now.
Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral, dans le studio marseillais. On accueille Jérémy Béchon et Olivier Boudran pour parler du spectacle Homo Sapiens, dont on écoute un extrait tout de suite.
Non, si il est fait gratuit, ça va. C'est loyal, c'est cool. Mais quand il est fait en pute, alors là, oui, ça sait dire pute. C'est mon client, c'est mon trottoir. Et voilà que je t'arrache la perruque, et voilà que je t'ai fait le nez. Ouh, c'est la loupe des places. Non. Après ça, il en fallait des cafés, des cigarettes dans le camping-car de l'assaut qui distribuait des capotes pour qu'on puisse se parler à nouveau. Heureusement qu'ils étaient là, les bénévoles de l'assaut. Hein. Parce que les SIDA, ça arrangeait bien la municipalité pour se débarrasser de nous. Bah oui, va demander des médicaments quand t'as pas de papier. Et à l'époque, les SIDA, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, les SIDA, s'ils t'attrapaient, pour toi, c'était basta, basta, basta.
Jérémy Béchon, vous êtes metteur en scène de Homo Sapiens. Est-ce que vous voulez commenter cet extrait?
C'est un passage où Betty, qui est un personnage phare dans la pièce, qui est une transsexuelle franco-argentine, nous raconte cette époque des années 90 à Marseille, dans le quartier de Sébastopol, qui s'appelait Sébasto pour les habitués du quartier, et l'épidémie du sida qui était dévastatrice à l'époque et surtout que personne ne voulait voir. C'est quelque chose qu'on a découvert avec les travaux de Laurent Guessade, et même au-delà de ses travaux, il faut savoir qu'il était avant militant et bénévole au sein d'associations qui justement faisaient de la prévention dans ces lieux de drague nocturne, avec les lieux aussi de prostitution, parce que c'est des lieux qui sont mixtes, qui sont fréquentés par des homos, des hétéros, et où il y a aussi de la prostitution. Et à l'époque, la municipalité était extrêmement méprisante, et l'opinion publique de manière générale, envers les victimes de l'épidémie du sida. Il faut savoir qu'on parlait, Libération avait titré quelques années avant, à propos de cette maladie, le cancer gay. Comme si le sida était limité aux seuls homosexuels, avec un mépris extrêmement fort où on mélangeait les toxicomanes, ce que la ville appelait les indésirables. Et il fallait chasser cette ville des indésirables. S'ils pouvaient crever en silence, c'était mieux. Et heureusement qu'il y a eu des militants, des bénévoles qui, à l'encontre de la médecine générale, parce que les médecins ne voulaient pas non plus entendre parler de ça, la plupart des médecins, il y en avait, mais la grande majorité de la caste bourgeoise des médecins ne voulait absolument pas entendre parler de ça. Et heureusement que ces militants ont distribué des préservatifs, ont fait de la prévention, ont fait du soin. Et ça rappelle beaucoup l'épidémie du Covid qu'on rencontre aujourd'hui aussi, c'est-à-dire que c'est les quartiers et les quartiers populaires, les gens qui s'organisent avant que l'État trouve la bonne formule. Et voilà, c'était pour rendre mémoire à tous ces gens qui sont morts, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de trithérapie, là, c'était beaucoup plus cash quand on avait le sida. Voilà. Et
cet extrait, donc, c'est par Betty, c'est Betty qui parle.
Cet extrait, c'est... Ah. Oui.
Et du coup, Betty, c'est un des personnages de la pièce.
Oui, parce que le scénario de la pièce, c'est qu'en fait, on suit une famille marseillaise qui habite Sébastopol. Donc une famille hétérosexuelle classique nucléaire, comme on dit, papa, maman, l'enfant. Et puis le père est hétérosexuel la journée et il fréquente ses lieux de drague masculine la nuit. Et donc ça crée un problème quand même dans la famille, parce qu'il y a ce qu'on retrouve très souvent avec l'homosexualité. Tout le monde est au courant, mais personne n'en parle. Ce lien implicite, cette violence que le père reçoit en permanence, parce qu'il doit garder cette sexualité double absolument secrète. Et on va suivre cette famille dans les années 90, puis dans les années 2000, puis ça va finir en 2013 à Paris avec le mariage pour tous. Et il y a près de 15 personnages comme ça qui se croisent, s'affrontent, se rencontrent, s'accouplent, se rejettent.
Et Olivier Boudran, c'est vous qui interprétez ces 15 personnages pendant le spectacle et qui passait de l'une à l'autre. Comment est-ce que vous vous inspirez et vous travaillez pour arriver à incarner tous ces personnages?
Alors, ça c'est un jeu qu'on aime bien, parce que l'idée toujours au théâtre, c'est de s'amuser. Si moi je m'amuse, le public s'amuse, hein. Ça part de ce principe-là. Chacun des personnages représente des figures fortes. C'est des gens que j'ai rencontrés, des gens que j'ai déjà vus. Un peu de toi, plus un peu de toi, plus un peu de toi, ça va créer ce personnage-là. Pour moi, c'est important aussi qu'un seul corps, un seul visage puisse représenter tous ces êtres-là. C'est aussi la question de la maïotique, hein. On porte en nous la totalité de l'humanité. On est tous à la fois et victimes et bourreaux. On passe de l'un à l'autre de manière permanente. Et puis ça montre aussi l'universalité des sentiments, des envies. Parce que d'accord que l'un des besoins primaires de l'être humain, c'est d'aimer et être aimé. Et peu importe l'objet de l'affection. Ça peut être le chocolat pour certains, ça peut être un chien pour d'autres, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être des plantes. Donc voilà, ça va un peu loin. Je crois que c'est tout.
Ouais, c'est le côté polymorphe de l'acteur. Et comment vous avez envie de... Quand est-ce que vous avez envie d'incarner Betty? Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites « Ah, ce personnage colle avec cette situation ?»
Alors, l'avantage de Betty, c'est qu'elle peut se permettre de dire tout ce que nous, on ne peut pas se dire. Parce que Betty, elle a carrément tout transgressé. Elle est passée de homme à femme. Elle est passée elle a quitté, elle a explosé toutes les barrières de la norme. Betty, elle est beaucoup moins chiante que moi, en fait. Moi je suis un peu, je suis un peu carré parfois. Je suis un peu chiant, je suis un peu maniaque. Alors que Betty, elle peut tout se permettre. Donc, le plus simple, c'est on va appeler Betty, en
Betty,
fait.
Betty, tu es là?
Betty, est-ce que... Justement, j'aimerais m'adresser à Betty pour savoir comment vous avez décidé de situer vos scènes. Pourquoi vous avez décidé de choisir la place Sébastopol? Pourquoi à Marseille? Voilà.
Betty, salut, pardon, moi c'est Betty, excusez-moi.
Bonjour,
je suis très
Betty.
Content d'être ici, c'est génial, ça fait hyper longtemps que je n'étais pas venu à Marseille. Alors moi cette pièce, je ne vais pas dire que je suis le personnage principal, parce que les autres après vont être jaloux, mais non, pour moi cette pièce, c'est ça raconte ma vie, et ma vie,
Elle n'est pas plus importante que la tienne, elle n'est pas plus importante que les vôtres, mais elle est significative de tous les combats qu'on mène depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans sur la civilisation de nos identités, de nos sexualités. Et après tout, la sexualité, c'est quoi? C'est la vie, c'est les désirs, c'est la fête. En fait, tout ce qui devrait être une fête devient un problème pour les autres. Alors, moi, ce que j'aime dans ces pièces, c'est que je te raconte comment moi, j'ai commencé les années 90. Moi, j'ai débarqué d'Argentine. Je suis transsexuel. Je suis séropositive. Je suis prostituée. Je suis une femme. Je suis homosexuel. Et je ne vaux pas moins que toi. Je ne vaux pas plus, mais je ne vaux pas moins. Ce n'est pas parce que je mène des combats que je n'ai pas le droit de parler ou que je dois m'ériger forcément en idole et en star. Alors, je parle, c'est très drôle. On part de Marseille dans les années 90, on n'a pas le droit d'exister. Hein. On nous met dans le noir, on nous chasse, on passe d'une place à un parc, d'un parc à l'autre. Ils veulent se débarrasser de nous, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que nous, on existe, on a besoin de vivre. Après, c'est une autre question, la prostitution. Tout le monde se pose la question de la prostitution. Bon, s'il n'y a pas des clients, il n'y a pas des produits, il n'y a pas des putes. Hein. Ben, c'est très clair.
Et dans les clients, il y a pas mal d'hétéros. Hein.
Oui, en plus. Alors ça, c'est génial, ça j'adore. Parce que officiellement, il n'y a pas grand monde qui a des problèmes avec les transsexuels. Tout le monde dit, ah oui, moi, je suis super ouvert d'esprit. Il n'y a pas de problème. Ils sont en droit de vivre comme tout le monde. Et la vérité, c'est que personne ne veut nous voir. Là, tu vas au supermarché, tu as déjà vu une caissière transsexuelle? Tu vas dans les écoles, tu as déjà vu une maîtresse transsexuelle? C'est quoi notre place, nous?
Mais c'est vrai que dans le domaine public, on n'en voit pas encore, on voit pas beaucoup de place laissée aux personnes transsexuelles.
Et c'est pour ça que c'était pour nous important de la replacer sur les planches et au théâtre. Parce que c'est dans le théâtre Conflit, il y a les pièces qui sont jouées dans les théâtres, comme on avait fait la première au théâtre Liberté Toulon, le théâtre Liberté à Toulon. Mais on joue aussi dans les centres sociaux, dans les MJC. Et c'est pour important de placer ce qui est dans le débat public, ce qui est caché sur scène, ça va pouvoir apparaître aux yeux de tout le monde et aux différents publics qu'on essaie de toucher.
Justement, là, vous êtes à Manosque aussi, donc je n'ai pas cité cette date-là, mais parce que c'est le fruit d'un travail avec des élèves.
Ouais. Betty, tu es toujours là? Non, c'est Olivier Boudran, tu es revenu?
Je ne sais pas, moi. C'est pas Olivier, je l'adore, je ne le quitte jamais.
Et oui, on sera à Manosque le 16 novembre pour une représentation avec le lycée Martin Brett, avec le lycée professionnel de Manosque. C'est important de faire venir le théâtre là où il ne va plus, parce qu'on sait que le théâtre est devenu un art réservé aux abonnés, c'est-à-dire aux gens qui ont la démarche d'aller au théâtre. Et nous, on pense que c'est le contraire, c'est le théâtre qui doit aller vers les gens. Y jouer pour des publics scolaires, c'est extrêmement important parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Je sais que j'étais un cancre à l'école, j'ai pas eu une grande scolarité, mais quand même, ce qu'on m'a imposé, les Molières que j'ai vues au théâtre, parce qu'on nous amenait voir Molière ou Alfred de Musset, ça m'a ouvert comme ça au théâtre classique. J'ai été fan de Molière comme ça. Donc, sans se comparer à Molière, là, bien sûr, mais c'est extrêmement important d'arriver à toucher chaque personne qui n'entrera pas dans le fronton d'une institution culturelle, ouais.
Et justement, ça permet aussi de réfléchir donc avec les jeunes de ces discriminations, des identités de genre, des identités sexuelles. C'est un travail aussi autour de ce spectacle Homo Sapiens. Ça permet de faire un travail de médiation autour de ces questions-là.
Oui, il y a eu un travail pendant un an de médiation sur la pièce et autour de la pièce, parce que chaque pièce a des thématiques très fortes. Et du coup, on peut, à partir de là, débloquer des choses sur essayer de libérer la parole. Et puis, les médiatrices, c'était Marie Béchon, là maintenant c'est Vanessa Pedrotti qui s'en occupe dans notre équipe. Elles ont une liberté de parole que n'ont pas les professeurs. Si un professeur se met à parler et à raconter ce que dit Betty, ce que tout le monde sait, mais c'est que personne ne veut dire. Et donc, ce que personne n'explicite, ce qui fait que le tabou reste fort et que la violence envers les discriminés est extrêmement forte, et qu'on va passer du discriminant à discriminé, et qu'on va répercuter cette chaîne insupportable dans laquelle on vit d'identité figée, elles peuvent aller beaucoup plus loin. Elles peuvent dire des gros mots. Ce que ne peut pas faire un professeur. Si un professeur fait ça, il va avoir une plainte, il va avoir derrière lui les parents d'élèves, et ça va entraîner beaucoup de choses avec sa direction. Donc souvent aussi, ils nous appellent parce qu'ils sont contents de pouvoir libérer la parole.
Avant de continuer de parler de ce spectacle, je vous propose d'écouter encore un extrait.
La femme et l'homme, son pied est mal lié par l'hétérosexualité. Un contrat, un système qui assigne le fort et le faible, le pénétrant, le pénétré, l'actif, le passif, le dominé, le soumis en hétérosexualité. Est imposé aux femmes pour que l'homme se les approprie. La femme objet, la femme à dot, la femme cloîtrée, la femme à botte, parésie. On ne naît pas femme, on le devient. L'antidote pour la femme à la femme et le lesbianisme. Un arrêt de l'ordre de reproduction, un arrêt de la reproduction de l'ordre. On ne naît pas femme, on devient lesbienne. Oh, mais c'est exactement ce que dit l'amoureuse de ma copine Valentine. Ay, bravo, entendiste final.
C'était un troisième extrait de Homo Sapiens, une pièce de théâtre. Betty, Olivier ou Jérémy, est-ce que vous voulez commenter ce...
Là, c'était un passage de Loyal, donc, et, qui nous raconte la place de la femme dans l'hétérosexualité et comment le lesbianisme remet en question l'ordre de l'hétérosexualité. Parce que ce qui est présenté comme naturel est culturel. Ça, c'est tout le travail que les socio-anthropologues ont mis à jour. Et c'est tiré d'un passage de Monique Wittig qui a écrit « La pensée straight ». C'est un essai assez court que tout le monde peut lire, qui est fulgurant. Cette pensée straight, ben, c'est la pensée hétéronormée. Et on ne pense pas qu'en tant qu'hétérosexuel, on pense par rapport à cette norme-là, parce qu'elle est tellement évidente qu'on a beaucoup de mal à la mettre en question. Et moi, ce que j'adore dans ce texte-là, enfin, nous, on a transcrit ce texte-là pour qu'il soit le plus scénique possible. On entend le public qui réagit. Le livre est un peu plus austère, hein, faut être honnête, mais nous, on met ça en scène d'une manière plus festive. Mais c'est que Monique Wittig se sert de Simone de Beauvoir en la critiquant. Et moi, j'étais déjà fan de Simone de Beauvoir, qui dit « on ne naît pas femme, on le devient ». C'est-à-dire que la féminité, ce qui est renvoyé à la femme qui est petite, qui doit tenir les jambes serrées, qui ne doit pas parler trop fort, qui ne doit pas rire, qui ne doit pas prendre le pouvoir, toute cette féminité-là qui infériorise la femme par rapport à l'homme, c'est une construction culturelle. C'est ce que dit Simone de Beauvoir. Mais là, la femme est dans une impasse encore. On peut commencer à déconstruire avec Simone de Beauvoir, et c'est ce qu'a dit Bourdieu aussi à la suite dans la domination masculine. Et Monique Wittig, elle explose ça, ben elle se sert de ça pour libérer la femme. C'est, on ne naît pas femme, on devient lesbienne. C'est-à-dire, on se libère. Et on se libère de ce système hétéronormé. J'ai trouvé ça fascinant.
Ouais, c'est pour moi, je comprends pas tout ce que tu dis, lui. Bah, ça, c'est pour le théâtre.
Ça, je vous présente Albert.
Ouais, pardon, celui à...
Un autre Albert. Personnage d'Homo Sapiens.
Moi, je sais pas, moi, salut. Peut-être pour péter quoi, on s'en fout. Hein. L'idée, c'est tu vas, ça te plaît, tu vas, tu continues. Hein. Tu sais, il y a des moments, hein, c'est pas ton cerveau qui dirige, tu comprends. Hein. T'es juste un peu chamboulé, il y a un truc qui bouge, hein, tu rentres dedans. Hein. Eux, là-haut, ils sont arrivés, là, comme ça, avec leur théâtre, ils m'ont dit viens, nous, on fait une pièce de théâtre, tout ça. Toi, tu m'en bats les couilles. Hein. Moi, je suppose, j'y vais jamais. J'étais au chômage, j'ai besoin de boulot, j'ai besoin de travail, j'ai besoin d'argent. Ils m'ont dit, vieux, viens raconter, viens parler. Moi, je dis, là, je viens parler.
Et quel est ton lien, toi, Albert, avec les autres personnages?
Moi, je suis à Pont à Betty. J'ai rencontré Betty à Paris en 2013. On s'est rencontrés au bar. C'était rigolo. Et moi, ce que j'aime bien, là, quand j'ai à faire du théâtre, c'est que les bourgeois, là, comme ils ont payé leur place, ils sont obligés de rester jusqu'au bout. Hein? Pour une fois, on m'écoute, hein. Parce que d'habitude, toi, t'arrives comme solo, tu dis que tu sors du Pôle emploi, etc. Les gens, ils t'évitent, hein, ils baissent les yeux. Hein, ils veulent pas être comparés à toi. Et puis, ce que t'as à dire, ils s'en battent les couilles. Donc, là, au moins, ils m'écoutent.
Et tous ces personnages, comment ils interagissent? Avec quelle mise en scène? Qu'est-ce que vous avez choisi?
En fait, le principe, c'est là qu'on entend Olivier qui switch. Parce que revient Olivier, parce que les gens ils vont croire qu'il y a...
On n'est pas 10 dans le studio, on n'est pas 10.
On est
15
dans ma tête, mais on est...
Voilà, on est 15 dans sa tête, mais il est dans un seul corps. Le principe, après, pour revenir sur Albert, c'est qu'en fait, il va tomber fou amoureux de Betty.
Fais pas le dire.
Et qui vont... Si, au théâtre, on peut dire les ressorts. je pense. Et c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, quand on répète, c'est switcher de personnage. C'est-à-dire qu'on passe d'un personnage à l'autre sans transition, sans changement de décor, sans changement de lumière. La lumière apporte tout un élément scénographique et poétique derrière, mais c'est pas ça qui fait le changement. C'est que le comédien qui le fait. Une fois qu'on a réussi à mettre en place les personnages, quand ils sont suffisamment justes, ils deviennent ce que j'appelle organiques. Et c'est-à-dire que le personnage, c'est ce que fait Olivier, il peut improviser et il peut parler, le personnage peut intervenir à n'importe quel moment sur n'importe quel sujet parce qu'il est autonome. Donc le paradoxe, c'est qu'on crée d'abord, en sociologie on appelle ça un paradigme, une forme de modèle où on a des concepts et on veut que des personnages interprètent des concepts. Mais après on ne s'arrête pas à interpréter des concepts, c'est pas les représenter, c'est vraiment les vivre. Et c'est l'autonomie des personnages qui ont leur propre cosmogonie, leur propre magie, leur propre faiblesse, et qui peuvent du coup discuter entre eux. C'est le principe de la mise en scène. Après, c'est regrouper ces personnages pour avoir quelque chose de cohérent et pas rentrer simplement dans la performance. Parce que la performance d'acteur nous intéresse peu. On nous en parle et on est flatté quand les gens trouvent que ce sont des performances. Mais ce qui nous intéresse, c'est arriver à passer ce que nous on a appris sur l'homophobie, sur le sexisme, pour apporter sa petite pierre à l'édifice et essayer de détruire ce système inique, qu'il soit social, qu'il soit genré, qu'il soit racialisé, qu'on vit et qu'on subit en permanence.
Et avec tous ces personnages, ça vous permet d'avoir une palette et de rassembler un peu tout plein d'identités possibles, mais qui ont pour point commun qu'elles ne correspondent pas à la sexualité majoritaire dans laquelle un homme né homme a un rapport avec une femme née femme. Mmh. C'est un peu comme le sigle qui rassemble toutes ces causes, LGBTQIA+. Alors ça regroupe beaucoup de termes, peut-être que je peux le redire. L, c'est pour lesbienne, donc une femme qui a des relations sexuelles avec une femme. G comme gay, un homme qui a des relations sexuelles avec un homme. B comme bi, une personne qui a des relations sexuelles avec un homme ou avec une femme. T comme trans, donc comme Betty qui était là tout à l'heure, une personne née homme ou née femme qui ne se sent pas appartenir à ce genre. Q comme queer, c'est quand une personne ne se reconnaît pas dans la sexualité hétérosexuelle, qu'elle ne se sent pas appartenir à un genre défini. I comme intersexe, les personnes intersexes ne sont nées ni hommes ni femmes. Ils existent plusieurs situations qui peuvent mener à l'intersexuation. A comme asexuel, ce sont des personnes qui ne ressentent pas le besoin de s'engager dans des relations sexuelles. Elles peuvent avoir des relations amoureuses, mais ne ressentent pas d'attirance physique. Et plus comme tous les autres, toutes celles ou ceux qui se questionnent sur leur sexualité.
Alors, nous, ce qui nous intéressait aussi, et moi, ce que j'aime dans cette pièce, c'est que c'est vraiment une pièce sur la discrimination au genre, aux identités de genre, parce qu'on se rend compte qu'elles sont multiples, aux identités sexuelles, parce que ça peut aller très loin, mais également sur toutes les discriminations de manière générale. En fait, on n'arrive pas, et ça c'est notre travail avec le collectif, on n'arrive pas à se cantonner juste à une discrimination. On se rend compte que la discrimination à l'identité sexuelle, elle est aussi liée à la discrimination sociale, à la discrimination d'origine ethnique, à la discrimination du handicap, de la bien-portance, etc. Il y a des cas où justement l'homosexualité va être très acceptée, alors que d'autres pas du tout.
C'est extrêmement... extrêmement important, c'est que c'est ce qui nous a mené à travailler sur cette question de l'homophobie, c'est qu'on avait travaillé sur les questions de racisme avec d'autres adaptations. On a fait les Trois Guides d'Algérie d'après Benjamin Stora, ou le Massacre des Italiens d'après Gérard Moriel, qui sont des historiens. On a ensuite la domination masculine, c'est ça que j'ai dit ? Non. Non. Ensuite, on a fait la domination masculine de Pierre Bourdieu et les textes de Tassadit Yassine, donc sur la critique de la masculinité, de ce qu'on appelle le patriarcat. Et du coup, l'homophobie était pour nous la suite, parce que ces personnages-là étaient déjà présents dans les autres pièces. Quand on fait du théâtre, c'est forcément genré. Ça explose forcément justement un code genré, puisque chez nous, les comédiens hommes font des hommes et des femmes. Là, ils font des hommes, des femmes et les autres, comme dit Virginie Despentes. Et après, sur cette définition de LGBT, c'est assez intéressant, parce que quand on pose la question à des gens qui ne connaissent pas trop, ça, ils ont tendance à critiquer, ils trouvent ça lourd et pénible. Et c'était mon propre avis avant de travailler la pièce il y a 4 ans de ça, mais j'ai mis 2 ans à ingurgiter toutes ces connaissances-là, et je trouvais que LGBTI, ils abusent, quoi. Et non, C'est-à-dire qu'il faut savoir que ce n'est pas les gens qui se sont mis dans des cases, c'est les gens qui ont été discriminés, qui ont été obligés d'affirmer leur propre identité. Et on a toujours tendance, en tant que dominant, à oublier ce côté-là.
Oui, c'est reprendre des cases pour justement essayer de dire on a besoin de plus de droits et on ne correspond pas à toutes les autres étiquettes que vous nous mettez, en fait.
C'est... Oui, s'il n'y a pas, encore une fois, c'était la question de la transsexualité avec Betty qu'on a mis au premier plan dans la pièce, c'est la question de la visibilité. S'il n'y a pas de visibilité, comment voulez-vous vous battre pour le droit ? Ensuite, le droit ne suffit pas. Ça, c'est encore une autre question. C'est pour ça qu'on critique qu'on défend le mariage pour tous qui a eu lieu en 2013, mais qu'on le critique aussi, c'est que le droit ne suffit pas. Il faut se battre pour le droit, mais il faut aller plus loin, à mon avis.
Oui, oui, en montrant et en dénonçant aussi les limites de ce type de loi.
Et où est-ce qu'on peut suivre votre travail ?
Alors, les 18, 19 et 20 novembre au Théâtre de l'Œuvre.
Bien sûr.
À 20h.
À 20h, chaque représentation est suivie d'un débat en présence de Laurent Guessade, socio-anthropologue avec qui on a coécrit la pièce et auteur du livre roman Chasse, chronique d'une sexualité secrète. C'est tout un programme. vous pouvez aussi nous suivre sur manifesterien.com, qui est notre site, sur le Facebook aussi, de Manifesterien. Et les pièces seront données, donc on l'a dit, au Théâtre de l'Œuvre. On jouera aussi à Manosque. Et la domination masculine sera jouée les 25 et 27 novembre à Port-de-Bouc et au Bagne.
On retient donc tous ces rendez-vous donnés avec vous. Merci d'être venu expliquer votre travail sur Fréquence Mistral. Et on se quitte avec un autre extrait de votre spectacle.
C'est qui ?
Monologue de Betty.
Ah, encore Betty.
Merci Betty d'avoir été convoquée aussi dans le studio.
Un plaisir.
et au revoir, à
Albert.
Bientôt.
J'adore.
Albert, dis-nous au revoir.
Ouais, salut les gars. Hein. À bientôt. On se voit au théâtre. Tu prends ta place.
Merci. Au revoir Olivier. Au revoir Betty. Au revoir Albert. Au revoir Jérémy.
Merci.
Et à bientôt.
Moi, est-ce qu'on prend par choix? C'est tellement plus classe, tellement plus joli. Déjà, quand j'avais 5 ans, j'étais petit, je voulais être grande. Je me souviens, c'est la rentrée. Je suis avec ma mère, on va faire les magasins. J'entre, et là, à gauche, les rayons des robes. Il y a tout. Les dentelles, les froufrous, les paillettes, les arcs-en-ciel. Et même les petits cœurs. Forcément, du haut de tes 50, il va direct les bras tendus. Bah! Et la ta mère, elle t'arrête et elle te fait « Ay no, corazón, tu vestuario sèche. » Oui, à cause de ma mère, tout le monde y savait qu'on était étrangère, hein? Argentine. Bref, j'ai passé mon enfance habillée en cacadois. Alors maintenant que je suis une femme, j'aurais pas les droits de m'habiller avec des paillettes et des couleurs flashy parce que ça fait pute. Ah, sauf au jour de l'an, t'as le droit de faire un peu de pute, ça fait plaisir à ton mec. Moi, je voulais être une femme qui s'habille comme une pute et à qui on casse pas les couilles.